réseau Cogeco, c'est
Parlons-nous.
Parlons-nous.
Votre tribune pour discuter des sujets du jour. Voici Valérie Leboeuf.
Bonsoir, bienvenue à Parlons-nous. Ça a été une journée en dents de scie. Aujourd'hui, on a commencé avec la neige et ça se termine avec le soleil.
Soleil.
Ça fait du bien, hein, Max?
Ben, oui, bien surtout ce matin, disons que le moral n'était pas là. Hein?
On
se disait, est-ce que c'est le retour de l'hiver? Il faisait froid, puis il fait encore un peu frisqué à l'extérieur.
Oui,
mais de terminer comme ça...
Exact, on sent que ça va sur le bon côté.
Oui. Et puis surtout avec des espoirs d'été hier, avec pas loin de 18, 19, 20 degrés, puis se réveiller ce matin avec des semblants d'hiver, c'était pas très, très réjouissant.
Mais ce soir, à l'émission, on a un sujet dont on n'a jamais parlé dans les trois dernières saisons, qui va certainement interpeller plusieurs femmes et peut-être hommes aussi. Ce nouveau modèle familial qui est la solo-parentalité, soit d'avoir le goût d'avoir un enfant seul, de prendre les moyens pour y parvenir. La question qu'on vous demande ce soir, en seriez-vous capable? Et c'est Geneviève Breton qui nous a inspiré cette question ce soir. Elle sort justement son livre aujourd'hui, Faire le choix de la solo-parentalité. Elle explique dans ce guide, puis elle sera en entrevue avec nous tout à l'heure, justement, qu'est-ce qui a fait en sorte qu'elle a décidé d'avoir un enfant toute seule, puis quelles ont été aussi toutes les mesures pour y parvenir, parce que souvent, c'est pas quelque chose qui... ça doit être un parcours du combattant, pas nécessairement simple.
Elle pourrait te répondre, mais dans la description de son livre, elle le dit, quand elle voulait faire ce choix-là de solo-parentalité, il n'y avait pas beaucoup, de guide sur comment faire, comment ça fonctionne. Donc, elle raconte ça. Puis, dans sa description, je vais t'avouer que la phrase qui me touche le plus, c'est au début de sa trentaine, Geneviève, qui chérissait le rêve de fonder une famille depuis toujours, a réalisé qu'elle convoitait beaucoup plus le statut de maman que celui de conjointe.
Oh!
Je trouve que ça dit tout.
Oui.
Et je la trouve extrêmement forte. En fait, je trouve toutes les femmes et les hommes qui font ce choix-là, c'est de mettre ta carrière sur pause, mais c'est que tu vas le faire tout seul.
Oui, et on aura le témoignage aussi d'Annie Guillemette, ma collègue et amie, Annie, qui a une fille qui a maintenant 16 ans, mais elle a choisi, elle aussi, d'avoir un enfant toute seule. Puis là, on remonte en 2005, 2006, 2007. C'était pas évident quand elle a décidé de prendre ce parcours-là. Il y en avait pas beaucoup, là.
Selon les chiffres de la clinique OVO, ce serait à peu près 33 % de la clientèle maintenant qui sont pas en couple. Mais, ce sont des femmes seules, en fait.
Puis si je te pose la question, toi, est-ce que tu serais capable d'être un papa en solo?
Pas du tout.
Non,
pas du tout. Non, parce que je te disais que je les trouve fortes. C'est parce que, premièrement, il faut que tu sois installé dans la vie. Il faut que tu mettes ta carrière sur pause. Puis ensuite, c'est de gérer tout ce qui vient avec, seul aussi. Écoute, tu me dis ça vite comme ça, peut-être qu'on peut me convaincre, mais c'est tout un engagement. Là. Puis je sais pas si je serais capable de faire ça.
Bien, je pense à Joël Legendre qui, lui, a adopté un garçon qui doit être rendu, mon Dieu, dans la vingtaine, c'est pas loin de la trentaine, je me souviens pas, mais ça fait quand même longtemps. Puis c'était aussi très, très rare à cette époque-là de dire un homme qui adopte un enfant tout seul. C'est pas que. Souvent, on va dire, pour la femme, c'est plus facile, mais je pense pas que c'est nécessairement vrai.
Non, pas plus facile. Non. C'est de vraiment élever quelqu'un, c'est élever un être humain.
Exact.
Et tu vas le faire seul déjà, puis je suis sûr que les auditeurs qui nous écoutent en ce moment se disent, déjà, d'élever des enfants à deux, c'est difficile.
Imagine
tout seul. Puis je vous rejoins là-dessus, puis j'ai hâte d'entendre vos témoignages. Si vous l'avez fait, appelez-nous ce soir, vraiment. Si vous avez jamais appelé dans une tribune téléphonique, c'est peut-être le bon moment de le faire aujourd'hui.
T'es très vendeur, mon Max. On va s'arrêter maintenant. Écoutez, je vous rappelle la question. Avoir un enfant seul par choix, en seriez-vous capable? À partir de 18h45, on prendra évidemment vos appels. Mais d'abord, ce qui a marqué cette journée du 24 avril, première journée de grève de quelques 5000 employés de magasins et de bureaux de la Société des alcools du Québec, à moins d'une avancée significative avec l'employeur, la grève qui va se poursuivre demain.
Et parmi les principaux points en litige, on note l'ajout de postes permanents, l'accès aux assurances et l'accès à la formation. La précarité s'inscrit au cœur des revendications des travailleurs de la société d'État.
Semaine, on peut avoir 12 heures, semaine, on peut avoir 30 heures. C'est difficile de faire un budget avec ça.
Je suis capable de savoir si je vais travailler dans deux semaines.
Je viens de rentrer il y a un mois et je trouve que c'est très important parce que ça prend quand même 12 ans à être en plein.
Il y en a pour qui les horaires, c'est dernière minute, c'est pas le fun. Ils sont à l'école en plus.
Faut le faire, peu importe la température. Faut être là.
On essaie de marquer le coup pour faire comprendre qu'on veut que les choses avancent.
Il faut reconnaître le travail qui est fait, le travail important qui est fait par les conseillers, par les gens sur le plancher.
Ah, regarde, on défend nos droits, là, tu sais.
Et sur une ligne de piquetage à Montréal, la présidente de leur syndicat affilié à la CSN, Lisa Courtemanche, a déploré le peu d'ouverture de l'employeur lors des négociations.
Nous sommes avec un conciliateur depuis cet automne. Fait que donc, on retourne à la table de négociation lundi matin et on souhaite que la SEQ ait des ouvertures autour de nos enjeux qui sont vraiment réels. La précarité, là, à SEQ, on comprend pas. C'est une société d'État.
Et sachez que si vous avez envie justement d'aller dans une SAQ, il y a quand même quelques succursales qui sont ouvertes à travers la province. Rendez-vous sur la SAQ.com. Maintenant, ce n'est qu'en 2025 que l'on va connaître l'impact qu'ont eu les grèves de la FAE et du Front commun sur les taux de réussite des élèves. C'est ce qu'a indiqué aujourd'hui le ministre de l'Éducation, Bernard Drainville, lors de l'étude des crédits budgétaires de son ministère.
Environ 175 000 élèves ont pu bénéficier de services de tutorat, entre autres mesures d'aide. Et pour connaître leur efficacité, en fait, de ces mesures, faudra attendre cependant analyser certaines données dont les résultats au bulletin, c'est ce qu'a expliqué le ministre.
Et évidemment, ce que l'on souhaite, c'est que lorsqu'on arrivera à cette évaluation-là, constater, affirmer que le plan de rattrapage a atteint ses résultats. Mais pour le moment, ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup d'élèves qui participent et le personnel est au rendez-vous.
L'opposition à Québec critique un autre report dans la mise en service du réseau express métropolitain qui a annoncé des retards dans sa livraison des antennes de Deux-Montagnes et de Lens-Alorme.
On explique ces délais par les travaux d'une grande complexité pour moderniser le tunnel Mont-Royal. La ministre des Transports, Geneviève Guilbeault.
Moi, je préfère qu'on prenne plus de temps et que ce soit fiable et sécuritaire parce que j'ai toujours la sécurité des usagers à l'esprit comme premier critère. C'est un projet qui est très complexe, il faut le rappeler, qui est réalisé dans des conditions complexes. Si on pense notamment à, aux travaux dans le tunnel Mont-Royal. Donc, j'ai pris acte de la décision et encore une fois, je pense que l'important, c'est que le système soit fiable et sécuritaire au moment où il sera mis en service.
Vous vous souvenez peut-être de ce jeune homme, Jesse Duchesneau, gaspésien, 19 ans, qui manquait à l'appel depuis plus de 7 mois. Son corps qui a été retrouvé dans le fleuve Saint-Laurent, dans le secteur de Bellechasse.
Il avait été vu pour la dernière fois le 4 novembre, près de la rue du Pont. C'est à la sortie d'un bar du quartier Saint-Roch à Québec qu'on a perdu sa trace, sa cousine Ariane Duchesneau.
Une délivrance, là, malgré, comme je disais, là, toute la tristesse que ça engendre, là, c'est vraiment une délivrance, là, surtout pour mon oncle puis ma tante. Là. Malgré que c'est pas le dénouement qu'on aurait voulu avoir, ben au moins on sait qu'il peut plus être n'importe où, là, on sait qu'est-ce qu'il y en a.
Son cellulaire et sa casquette avaient été retrouvés dans un stationnement souterrain du secteur Saint-Roch. Originaire de Passepébiac, en Gaspésie, il était à Québec pour y fréquenter des bars avec ses amis.
Tous les corps policiers du Québec qui vont procéder à une opération nationale concertée à partir de vendredi en lien avec la sécurité routière. Les policiers seront plus visibles dans chacune des régions, sachez-le, puisque le nombre d'interventions et d'opérations va augmenter sensiblement d'ici le 2 mai.
On veut cette année mettre l'accent sur la protection des piétons et des cyclistes. Francis Bernardin de la Sûreté du Québec.
Le volet intervention amène également un volet sensibilisation. C'est-à-dire que le fait pour des citoyens de ne pas nécessairement faire l'objet d'une interception suite à un comportement délinquant, mais lorsqu'ils voient une présence policière accrue, vont notamment être sensibilisés davantage à l'adoption de comportements sécuritaires et responsables.
Il y a la Société de l'assurance automobile du Québec qui a versé près de 170 millions de dollars en indemnisation pour les accidents dont le rapport policier faisait état d'alcool de 2018 à 2021. Ces données ont été obtenues grâce à une demande d'accès à l'information du porte-parole de l'opposition officielle en matière de transport et de mobilité durable, Moncef Derachi.
Le député libéral a déposé un projet de loi en mars afin d'imposer des sanctions administratives dès l'atteinte d'une alcoolémie au volant de 0,05. Et M. Derachi rappelle que malgré l'amélioration du bilan routier, celui-ci pourrait être meilleur avec un peu plus de courage politique de la part du gouvernement.
Québec va devoir débourser 40 millions de dollars pour décontaminer la tour du Stade olympique à la suite de l'incendie du 21 mars dernier. On se souviendra, c'était un petit incendie. Ça semblait pas être quelque chose de très gros. Finalement, les conséquences sont tout de même importante. La ministre du Tourisme, Caroline Pou, explique que le stade n'est pas assuré comme bien des édifices publics.
Et elle ajoute que la fumée s'est infiltrée dans le système d'aération et ça s'est propagé à tous les étages.
Cette bombe incendiaire-là était au pied de la tour, donc directement au niveau de la trappe d'aération, si vous me passez l'expression, qui s'est donc propagée sur les 17 étages de la tour, 66 000 mètres carrés à nettoyer et à décontaminer.
Et c'est le moment de discuter avec Mario Langlois pour son émission Les amateurs de sport qui prendra l'antenne à 20h. Salut Mario.
Allô Valérie, allô Maxime.
Il arrive ici puis il y a une face, hein? Il y a une face de coquin.
Oui, ben oui, mais là, c'est le beau temps ou je sais pas?
J'attends le piège, la question.
Ah, OK, mais ça va venir plus
là,
tard.
Je suis rendu sur le gros nain quand j'arrive
ben
ici.
Ben oui,
là, je
te marche dis sur que... des œufs quand il rentre dans le studio.
Mais d'abord, il sera question de hockey, de séries éliminatoires ce soir. Est-ce qu'il y a une équipe canadienne qui pourrait se démarquer et se rendre plus loin dans ces séries?
Je pense que ça fait longtemps qu'on attend des équipes comme Edmonton et Toronto qui sont en action toutes les deux ce soir. Il y a Winnipeg et Vancouver. C'est une grosse année. Ben, une grosse année. On a plus de la moitié de nos équipes, cette équipe canadienne. 4 sont en série, puis pas des équipes tu sais qui en arrache sont entrées là par la porte de derrière, des équipes qui ont eu toutes de bonnes saisons. Alors, si ça arrive pas cette année, tu dis, ma foi, quand est-ce? Bon, ça pourrait être l'année suivante, mais on surveille particulièrement Edmonton et Toronto. Tu sais, Vancouver, Winnipeg, oui, il y a des attentes, mais Toronto et Edmonton ont la particularité d'être des équipes qui ont souvent repêché parmi les premières et qui ont repêché très souvent premier total. McDavid est le dernier d'Edmonton. Puis Toronto a gagné la loterie Austin Matthews en 2016. Et c'est sûr que à un moment donné, c'est comme à Montréal, tu sais, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, on est en reconstruction, la balade des gens heureux, même si on rate 3 années de suite, les séries éliminatoires, mais c'est vrai, c'est le cas, il y a de l'espoir. À Toronto, ils ont pas gagné la Coupe depuis 67, faut quand même leur rendre hommage, l'amphithéâtre a toujours été plein depuis ce temps-là, bon an, mal an, mais depuis la loterie Matthews, puis il commençait à avoir de l'impatience, là, tranquillement, ben là, c'était tous les chouchous de la ville, Mitch Marner, Austin Matthews et compagnie, mais là, ils ont gagné une ronde éliminatoire depuis cette loterie-là. Une toute petite ronde éliminatoire. Ils se sont fait sortir par les Canadiens à l'été 2021, vous vous en rappelez. Mmh. Et là, ben, ce qui était de l'espoir commence à changer en attente, puis même un peu en cynisme, puis parfois en méchanceté. La une du Toronto Sun ce matin, c'est « The Invisible Leaf », la feuille d'érable, entre guillemets, invisible. Ouais. C'est un des chouchous de la ville, c'est Mitch Marner. Mais là, il est moins un chouchou parce que on est tanné de pas gagner. C'est plus pareil. Alors,
ils sont patients. Ici, à Montréal, on ne l'arrêtait pas.
Ben, ça fait 93. Là, ce moment, à Montréal, je considère que la réputation qu'on a donnée ou qu'on a attribuée au marché de Montréal comme étant l'un des marchés les plus difficiles, à mon avis, ne tient pas ou ne tient plus. Je trouve que le public est exceptionnellement conciliant.
Je pense que c'est pareil dans tous les marchés canadiens, selon moi. Je veux dire, la pression est aussi forte à Montréal qu'à Toronto, qu'à Winnipeg.
Mais ça dépend du cycle que traverse ton équipe. Et c'est là toute la différence. C'est ça que j'essaie de mettre en parallèle. Prends Ottawa. Brady Kachuk, la semaine passée, fait son bilan de fin de saison. Il a le taquet bas, puis il est pas content. Parce que pourquoi? Parce que les autres, là, ça fait une couple d'années aussi ils ont tous eu les gros contrats, les jeunes, tout cuit dans le bec. Mais quand vient le temps de gagner, les matchs qui comptent, hop, il se passe rien. Fait que là, maintenant, la perception de, tu sais, on les chouchoute, on les aime, sont-tu beaux, sont-tu fins, on achète le chandail. Ça va bien tout le temps que t'arroses le jardin. Bah, ça pousse bien. Regarde les belles couleurs dans ce côté-là du jardin. Et là, on est dans cette phase avec le Canadien. Un jour ou l'autre, une frontispice comme on a eu à Toronto, peut-être qu'il y a un joueur du Canadien qui va décevoir, comme Price en a vécu d'ailleurs quand il y avait des attentes envers Price. Mais là, Toronto vit ça. Alors, les attentes changent le ton, mais c'est probablement plus facile de gérer une équipe, tu sais, de faire table rase puis de dire, hey, il y a des limites, le monde n'accepterait pas qu'on fait ça 3 années de suite sans résultat, trois cycles de suite sans résultat.
Oui,
mais ça change vraiment le ton. Alors, on va discuter de ça ce soir, notamment avec Guillaume Latendresse qui est avec nous. Il y a plusieurs invités. On va s'entretenir avec le meilleur marqueur de la Ligue américaine de hockey qui est Maverick Bourque notamment. Aussi, début des séries dans la LHJMQ demain. Les 4 coachs seront avec nous dans la dernière portion de l'émission ce soir. Bref, on va bien s'amuser avec nos invités. Encore une fois, plusieurs points de discussion en mode séries éliminatoires. Le coach recrue des Capitals de Washington qui a pointé du doigt le vétéran, la légende Ovechkin en disant « Non, il est pas là, il en arrache, c'est difficile, j'ai hâte de voir le prochain match d'Ovechkin. » Mais ils ont pas le choix, ils tirent de l'arrière de 2-0 contre les Rangers.
Et ta question de tribune téléphonique à toi, est-ce que tu l'as déjà
Je tergiverse sur certaines, puis là j'ai des notes sur toute l'autre feuille, mais ça va tourner sur une question des séries là par rapport au marché. Je m'excuse de pas te la pondre, je devrais l'avoir par cœur.
Mais il y a la tribune.
Oui. Bien sûr.
Donc, on va y aller avec notre tribune à nous.
Allons-y, Valérie. C'est là le moment. Roulement de tambour.
Je sais que tu es papa de 3 enfants.
Oui.
Si tu avais eu l'occasion, finalement, d'avoir un enfant seul par choix, bon, évidemment, ça te prend une mère porteuse, on va dire, l'achat d'ovules, peu importe, là. Mais est-ce que tu aurais été capable, tu penses, d'être papa tout seul?
Ben, je pense pas que j'aurais choisi d'être papa tout seul, là, tu sais, je pense pas que j'aurais fait ce choix-là. On le vit par ricochet souvent en devenant des parents monoparentalité, en garde partagée.